À ceux qui se méfient des syndicats, nous disons que le syndicalisme n'est pas un mouvement qui découle de principes ou de critères idéologiques extérieurs au monde du travail. Le syndicalisme est d'abord la manifestation d'expériences collectives menées au jour le jour et chaque fois renouvelées, faites par des hommes et des femmes en opposition permanente avec leur patron, le capitaliste, sur leur lieu de travail. Il est le facteur essentiel du progrès social et le moteur de toute émancipation. L'augmentation du pouvoir d'achat, la hausse des salaires, la réduction du temps de travail, le maintien des 35 heures, l'opposition au licenciement, la retraite sont du domaine exclusif de la lutte des travailleurs pour mieux vivre. Toujours plus nombreux sont ceux et celles qui, ayant perdu toute illusion dans les gouvernements pour la résolution de leurs problèmes, rejettent la politique et se détournent des urnes. Adhérer au syndicat est la démarche naturelle de tous ceux et de toutes celles qui vivent les mêmes situations de travail et qui veulent se battre ensemble pour ne plus subir, pour échapper aux mauvaises conditions de vie et bénéficier des richesses produites par leur propre travail. À l'heure où les politiciens entrent dans les usines et découvrent ceux qui se lèvent tôt, les travailleurs et les travailleuses, il est utile de leur rappeler vigoureusement que la seule politique qui nous convienne est celle de l'action syndicale. Camarades, bonsoir.
Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Ekartasuna da, erren arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria. Oigaren begizaindaria Hauze da karrera Taldea gauzatu egin dena Biztu egiten duena zarea Eramaten gure izarran Aparato erroiduak engrazatu gara Memoria historikoa ez galtzeko naia Ezin bestekoarekin lortzeko lotura Zamurtasuna eta zerrepegunea Ya están aquí las compas Llegan los muchachos, arriba los que luchan, ¡brigadistas baratos!
Jeudi 19h45 au lieu de 20h, c'est l'heure de la bande à Spartacus, une émission sur le syndicalisme et la lutte des classes. ce soir, eh bien, pour une petite heure, eh bien, on a toujours autant de sujets, il se passe toujours autant de choses dans les luttes sociales. On parlera donc d'une grève qui a eu lieu à la FNAC et qui va encore avoir lieu. Là, il y a une grève qui se prépare pour le 4 mai. On parlera de la fin de grève chez TSI, hein, ça se passait dans les salariés du nettoyage à la SNCF à Paris. On parlera d'Adiceo qui a été condamné pour avoir causé la mort de ses salariés. Petit casino aussi qui licencie illégalement une déléguée syndicale. On reviendra sur l'UNEDIC avec des grèves à la DARES, à la NPE, et puis on en a parlé tout à l'heure, l'occupation des intermittents, des chômeurs. D'une UNEDIC. On parlera de Delphi avec un chantage à l'emploi après Sogema Service dont on avait parlé la semaine dernière. Et bien là c'est Delphi dans les Ardennes qui fait un chantage à la RTT, hein, suppression de la RTT où on licencie tout le monde. On parlera aussi, on reviendra sur PSA puisque ces derniers temps il y avait eu une grève formidable qui s'était déroulée là-bas. Maintenant et bien la vie continue à PSA, donc et bien la direction décide de massacrer l'emploi, plus d'une dizaine de milliers d'emplois dans la ligne de mire, et un suicide qui a eu lieu chez PSA aussi. On reviendra aussi sur les salaires du CAC 40, les parachutes dorés, bref, la lutte des classes. Et puis aussi, on parlera de la répression qui continue au Mexique, à Oaxaca. On parlera d'une grève générale en Espagne qui est dans la baie de Cadix, qui a bien réussi. La lutte des enseignants à Mayotte. Et puis on parlera aussi des sans-papiers. On commence donc tout de suite avec une grève à la FNAC.
Donc on va commencer tout de suite avec cette grève à la FNAC. Donc je sais pas, vous en avez certainement entendu parler depuis quelques mois, depuis l'annonce du projet de restructuration des services administratifs et la fin des négociations salariales en 2007. Il y a donc une prévision de la suppression de 427 emplois dans les services administratifs, et il y a eu différentes grèves dans différents établissements à Paris et en province. Et là, pour une fois, il y a eu l'intersyndicale nationale qui appelle à une journée le 4 mai. Donc le 4 mai, à l'appel de tous les syndicats CNT, FO, CGT, Sud et FNAC, donc essayer de faire échec à ce début de plan social qui devrait se poursuivre avec la direction de la FNAC arrive à faire tomber ces 427 emplois. Derrière, ils ont en ligne de mire les travaux photo, la logistique, le disque et plus généralement en fait l'ensemble de la masse salariale. Tout ça, ça va mettre en relation évidemment avec les salaires, étant donné que les salaires sont au minimum de la convention collective. Et derrière, ces salaires, c'est bien évidemment à mettre en relation avec les dividendes des actionnaires qui, cette année, donc l'année 2006, l'année dernière, ont été augmentés de 10%. Donc cette grève, on l'espère, sera une réussite et que ça va réussir un petit peu justement à cristalliser toutes ces petites luttes qui peuvent avoir lieu un petit peu partout en France, et que cette journée du 4 mai, donc jeudi prochain, sera une réussite et on pourra en parler donc dans nos émissions futures, étant donné que leurs revendications sont pas simplement donc sur le maintien des emplois, sont bien évidemment sur une augmentation de salaire de 250 € pour tous et toutes en 2007.
Autre sujet maintenant, eh bien TSI, ça fait quelques semaines qu'on en parle, puisqu'ils ont fait quand même 29 jours de grève, ces ouvriers et ouvrières de TSI. Ils ont arrêté leur mouvement de grève le 19 avril. Une grève assez intéressante déjà par sa durée, par la mobilisation, puisqu'il y avait un fort pourcentage de grévistes qui ont été rejoints après par d'autres sites, hein, puisque TSI travaille dans des gares précises. Donc d'autres sites les ont rejoints, d'autres gares. Ils ont été rejoints aussi par des salariés du nettoyage à quai. Ils ont été rejoints aussi par des cheminots. Donc voilà, des formes de solidarité interprofessionnel. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? On en avait vite fait parler la semaine dernière. Donc la prime ne sera plus versée, une des primes qui touchent ne sera plus versée arbitrairement, et les salariés donc vont bénéficier de cette prime, on va dire légalement. Ils vont bénéficier de leur convention collective et notamment de la convention collective de la manutention ferroviaire qui correspond à la réalité de leur activité. La principale revendication, c'est-à-dire la transformation des temps partiels en temps plein, eh bien, va être partiellement mise en œuvre d'ici au 1er janvier 2008, puis au fur et à mesure des départs à la retraite. Et enfin, une chose très une chose très importante, c'était les sanctions que subissaient les salariés et les responsables syndicaux pendant cette grève qui était menacée donc de licenciement. Et bien toutes ces sanctions, la direction s'est engagée à renoncer donc à toute poursuite et sanction à l'égard des salariés. Donc c'était la condition essentielle de cette reprise du travail. Et donc voilà. Donc et bien les salariés ont pu retourner au boulot avec leur chef qui baissait les yeux. Ils nous disent que ça leur faisait bien plaisir. La donne a changé aussi dans cette entreprise où les ouvrières ont montré qu'ils savaient se faire respecter. On continue avec Adisseo.
Oui, donc Adisseo, c'est une société qui est dans la chimie. C'est comme le numéro 3 mondial des compléments alimentaires pour animaux. Et donc la justice a dit donc qu'ils avaient commis une faute inexcusable. Et c'est ce qu'a jugé donc vendredi dernier, c'était le tribunal des affaires de la sécurité sociale, donc le TAS de Moulins, dans le centre de la France. Et il a condamné donc la société à verser des indemnités de 50 000 à 60 000 euros à chacun des 9 salariés et aussi aux anciens salariés de l'usine qui sont atteints du cancer du rein. Donc cette usine, elle utilise depuis 1982 en fait du chloracétal C5. En fait, il s'agit d'une molécule mutagène et aussi cancérigène. Et pour le TAS, donc pour le tribunal, lorsqu'elle a connu le caractère mutagène du chloracétal C5 en 1990, donc il y a déjà 17 ans, la société Adisseo France démontre pas avoir réellement renforcé les mesures de protection concernant ses salariés. À compter de 1984, il y a de nombreux cas de cancer du rein qui ont été diagnostiqués parmi les salariés du site. Il y a 22 cas qui ont été dénombrés, dont plusieurs décès. Donc les manquements de la société Adisseo France sont à l'origine de la maladie. La société a commis donc une faute inexcusable. Et en jugeant qu'Adisseo n'avait pas pris les mesures nécessaires alors qu'elle avait conscience du danger, le TAS permet le doublement de la rente qui est versée aux victimes par la CPM. Dans un communiqué, Adisseo déclare prendre acte de la décision. Néanmoins, ils se réservent le droit, du moins, de faire appel. Donc, affaire à suivre.
À suivre donc chez Adisseo. Ça fait du bien de les voir un peu se faire condamner. On enchaîne sur une autre affaire. C'était Petit Casino. On en avait parlé il y a quelques mois, puisque il y avait les petits gérants des petits casinos qui commençaient un peu à se plaindre des contrats qui signaient avec l'entreprise Petit Casino, qui relevait plus de l'escroquerie et de l'esclavage plutôt que d'un vrai contrat de travail. Donc eh bien, il y a plusieurs gérants qui commençaient à porter plainte contre Petit Casino, à s'organiser en association pour porter plainte ensemble, etc. Dans ce cadre-là, il y a une gérante qui a décidé de monter un syndicat CGT et donc de continuer cette lutte et de la fédérer. Et bien c'est clairement dans ce cadre que, en toute illégalité, bien vendredi dernier, la direction de Casino a licencié Noël Mini, donc qui est délégué CGT, dans son magasin qui est situé près des Halles à Biarritz. Et bien cette gérante a vu arriver le directeur régional des ressources humaines de Casino, accompagné de quatre autres membres du groupe et d'un huissier. Ils lui ont donc remis sa lettre de licenciement et ils l'ont enfermé dans le magasin, ils l'ont forcé à faire l'inventaire de sortie. Donc elle touchait chaque mois 1380 euros et elle bossait plus de 60 heures par semaine, donc déjà des conditions assez terribles. La version officielle de son licenciement dit qu'elle réalisait pas assez de chiffre d'affaires, donc elle dit que c'est du pipeau, que la direction commerciale lui imposait des prix les plus élevés de la ville, qu'il lui empêchait d'installer de nouveaux produits et qu'il ne lui remboursait pas ce que lui devait le groupe. Voilà, dans la précipitation, Petit Casino, le groupe a oublié, on va dire, de demander l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail, une démarche qu'elle est pourtant obligée de faire puisque cette salariée est protégée dans son cadre d'exercice syndical. Le directeur national des ressources humaines à Saint-Étienne, eh bien, alors lui, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Il lui expliquait qu'il passait outre la loi, que de toute façon, elle n'était pas faite pour être commerçante et que, texto, eh bien, elle n'avait qu'à trouver du travail chez les fonctionnaires si elle refusait de travailler 7 jours sur 7. Voilà la conception de ce triste monsieur, directeur des ressources humaines à Saint-Étienne. Elle avait créé ce syndicat et la coïncidence aussi par rapport à l'affaire dont je parlais au début, c'est que son licenciement intervient quelques jours après la convocation de la direction nationale du groupe Casino devant la brigade financière pour l'affaire, donc la première affaire de Nadine et Yves Fléché, les premiers gérants à avoir porté plainte au pénal pour escroquerie et harcèlement contre donc Casino. Donc voilà une coïncidence assez curieuse quand on sait que Noëlle Mini, celle qui est licenciée, suit de très près cette affaire et qu'elle mène la lutte. Il y a plusieurs dizaines de gérants qui sont en train de déposer des nouveaux dossiers devant les tribunaux pour escroquerie et harcèlement contre Casino. Il est donc évident que le licenciement de Noëlle Mini est en lien avec son mandat. Devant la multiplication des dossiers, le groupe Casino panique et préfère être poursuivi pour délit d'entrave plutôt que de subir les actions de cette syndicaliste qui lutte contre une culture maison de l'escroquerie.
Décidément, il se passe vraiment beaucoup de choses au niveau de la grande distribution et du commerce en général. On l'a vu encore tout à l'heure avec la FNAC. On en avait parlé la semaine passée avec les luttes dans la grande distribution, notamment la lutte des caissières. On voit vraiment avec un patronat de combat, un patronat de choc qui n'a aucun scrupule à licencier et à casser ses salariés. Et c'est d'autant plus injustifié puisque c'est vraiment un secteur d'activité qui gagne vraiment énormément d'argent. Preuve en est, puisque les chiffres qui sont tombés là cette semaine sur les plus grandes fortunes de France chez les patrons. Pendant longtemps, on avait vu que c'était la patronne de L'Oréal qui tenait à la dragée haute. Et là, donc, cette fois, c'est le patron de LVMH qui est aussi dans la grande distribution qui a pris le dessus, qui est en tête du palmarès des plus grandes fortunes. Non, c'est bon, j'ai fini. À toi. On continue, autre sujet ? C'est à toi.
Vas-y. Donc, toi, t'as fini sur l'UNEDIC. Donc.
Non, je vais refaire l'UNEDIC alors. On va parler sur l'UNEDIC, sur les chiffres notamment du chômage, avec une grosse polémique dessus en ce moment, puisqu'il y a donc le toit de l'UNEDIC à Paris qui a été occupé par des chômeurs, des précaires et des intermittents. Et au même moment, il y a donc des grèves qui sont lancées au niveau du ministère de l'Emploi, notamment par les salariés de la DARES, donc c'est la direction de l'animation et de la recherche des études et de la statistique, qui sont réunis donc en assemblée générale et qui ont appelé aujourd'hui à une journée de grève et de mobilisation pour ce jeudi 26. C'est pour s'opposer justement à la publication programmée demain sur les estimations qui jugent, et à juste titre, non fiables sur le nombre de chômeurs au sens du BIT, donc du Bureau international du travail, et du taux de chômage. Donc ces chiffres concernent le mois de mars 2007. Donc on le sait, depuis 2 ans, le gouvernement annonce les chiffres du chômage, et évidemment, à chaque fois, il les revoit à la baisse. Bon, il faut quand même savoir qu'en France, moins d'un chômeur sur deux est indemnisé, et en plus, il y a toute une panoplie de contrats aidés, de faux emplois, et ces personnes comptent comme travailleurs. Donc voilà, le chômage, en fait, qui n'est pas aux chiffres que nous dit le gouvernement. Vendredi prochain, donc demain, le directeur de la DARES, lui, il va continuer à légitimer en fait ses estimations mensuelles du taux de chômage, et qui en fait, il ne trompe plus que ceux qui veulent bien y croire. Donc, au cœur de cette controverse sur les chiffres du chômage, la direction de la DARES, elle persiste en fait à faire la sourde oreille, malgré les appels forts qui ont été dressés par les personnels avec donc toutes ces grèves. Et depuis plusieurs semaines, ces chiffres, ils sont largement contestés. Jeudi 19 avril, c'était pour la première fois, il y a un rassemblement qui avait eu lieu sur le parvis du ministère et qui avait réuni quand même plus d'une centaine d'agents, non seulement de la DARES, mais aussi de l'INSEE, de la NPE et de l'ADRES, et aussi d'autres services de statistiques. Donc leur demande à ces personnels, ces salariés en lutte, elle reste la même, c'est-à-dire de cesser de publier une estimation dont chacun sait en fait qu'elle enjolive abusivement la situation réelle. Quelque part, la crédibilité de la DARES et aussi plus largement du système de statistiques public, il est en jeu. Et donc, voilà, c'est aussi une exigence pour ces salariés de défendre leur déontologie professionnelle et des principes, évidemment, d'indépendance et de neutralité de la statistique. Et c'est pour ça donc qu'ils étaient en grève aujourd'hui pour s'opposer à cette présentation demain des chiffres du chômage du mois de mars. Donc ces chiffres que tous les mois on publie à la presse, aux médias, par le ministère de l'Emploi. Donc une affaire à suivre. Au même moment donc de ces grèves chez les professionnels des statistiques, il y a eu l'occupation lunédique par des chômeurs, des précaires et des intermittents aussi. Après, comme on le disait, cette polémique sur ces chiffres du chômage, puisque on sait très bien que toutes les personnes qui plient sur les coups, sur les assauts du capitalisme, notamment toute la cohorte des radiés et tous ces exclus de l'indemnisation chômage, et à qui on demande à chaque fois de chercher un emploi après l'avoir privé de tout revenu réduite à des misérables minima sociaux. Ça concerne aussi les 400 000 emplois aidés, dont les contrats qui sont en complète dérogation par rapport au code du travail et notamment qui ne seront pas renouvelés après les élections. On pense à tous ces contrats d'avenir et ces CAE, les contrats d'accompagnement à l'emploi qu'on retrouve dans tout le secteur non marchand ou dans certains services publics comme dans l'éducation nationale, tous ces contrats honteusement précaires et toutes ces centaines de milliers de personnes qui sont contraintes à des stages de remobilisation de plusieurs semaines et stages qui d'ailleurs ne servent à rien en termes de retour à l'emploi parce que selon les chiffres même de l'NPE, mais ils ont permis de faire sortir les concernés de la catégorie 1 qui sont les seuls comptabilisés dans les statistiques officielles du chômage. Donc voilà, aujourd'hui, cette occupation du toit de l'Unédic, elle redonne une parole solidaire, une parole collective à tous ces chômeurs et précaires qui jamais n'ont été stigmatisés avec une telle violence. Violence d'ailleurs, certainement aussi cet après-midi, puisque déjà, il y a une personne qui a été arrêtée lors de cette occupation par les flics. Il y a eu une mobilisation forte derrière, donc cette personne a pu être relâchée. Néanmoins, on l'a appris tout à l'heure, ce soir à 17h30, les gardes mobiles prenaient d'assaut le toit de l'Unédic pour déloger ces personnes, notamment des camarades précaires, notamment des gens d'AC, d'agir contre le chômage. À l'heure où il y en est, il y a une rue qui est bloquée par des chômeurs en lutte juste à côté de l'Unédic. On n'a pas plus de nouvelles pour l'instant. Donc voilà, affaire à suivre. Et puis on vous tiendra au courant la semaine prochaine sur les suites de cette lutte.
Et si vous voulez vous tenir au courant, il y a également une réunion qui est prévue demain soir à 20h au local d'AC au sujet de cette occupation de l'Unédic et des différentes luttes qui peuvent être menées. Donc local d'AC, je vous rappelle que c'est 13 rue Paul Lafargue à Villeurbanne, c'est au métro Gratte-Ciel. Cette réunion est bien évidemment ouverte à toutes et tous, individus et organisations. Sinon, on continue donc avec PSA. PSA, donc, on se rappelle cette grève qui a duré 6 semaines à Aulnay-sous-Bois. Cette grève juste et cette belle grève qui a demandé une augmentation de 300 euros de salaire. Et surtout, ce qui nous intéressait aussi et ce qui est en relation avec ce que vient de parler Didier, c'était la titularisation de ces 6 à 700 intérimaires. Donc PSA, suite à cette grève, 15 jours après, des nouvelles choses qui sont beaucoup moins réjouissantes. Tout d'abord, un ouvrier de 51 ans de PSA. PSA Peugeot Citroën à Mulhouse qui s'est suicidé en fin de semaine dernière. Également un autre suicide qui avait eu lieu au début de cette année à l'entreprise de Peugeot Citroën à Charleville-Mézières, à mettre en relation certainement avec ce qui s'est passé à Renault à Guyancourt, là au Technocentre. On voit que le secteur automobile est un secteur dans lequel les suicides sont malheureusement de plus en plus présents. Bien entendu, c'est parce que les conditions de travail sont catastrophiques. C'est aussi pour ça qu'il y a de nombreuses grèves qui peuvent avoir lieu. On a vu celle à PSA, on avait vu récemment en Belgique celle de Volkswagen. On verra aussi Delphi à Cadiz, on verra aussi Delphi en France. Donc un secteur qui est largement mobilisé aussi parce que il y a les suppressions d'emplois qui tombent largement parce qu'il y a eu un coup de tonnerre qui est tombé justement PSA, Peugeot, Citroën. Simplement 2 semaines après cette magnifique grève à Aulnay-sous-Bois, Le site Capital a annoncé qu'il y avait 10 000 emplois qui devraient être supprimés, 10 000 emplois dans le groupe, et ensuite il faudra rajouter tous les sous-traitants. On sait que, comme très souvent dans l'automobile, quand il y a une fermeture d'usine, il y a beaucoup d'usines sous-traitantes qui sont largement touchées, qui là on en entend beaucoup moins parler, mais c'est toujours ce qui arrive. Donc en plus, ce qui est assez intéressant, on voit très bien, c'est que le PDG, donc Christian Streff, s'est engagé auprès du gouvernement à ne pas annoncer donc ces licenciements et cette charrette massive qui va avoir lieu, donc de 10 000 personnes, ne pas l'annoncer pendant la campagne électorale. Par contre, très clairement, il l'a dit, hein, c'est que il pourra pas attendre les élections législatives. Donc c'est des annonces qui risquent d'arriver au mois de mai. Donc c'est comme toujours, c'est toujours pour faire plus de profit. On rappelle quand même que les ventes de PSA ont cru de 65% entre 1998 et 2006, qu'elles sont passées de 2 millions à 3,3 millions, et qu'il faut savoir que l'objectif pour 2007 est de 3,5 millions. Et derrière, bien entendu, les actionnaires avec 317 millions d'euros de dividendes au titre de 2006. Donc il y a une assemblée générale des actionnaires qui devrait avoir lieu le 23 mai. Donc je pense qu'on en saura un petit peu plus à ce moment-là sur ces réductions massives d'emplois. Et je pense qu'on saura également les ripostes qui seront amenées par les syndicats.
On s'écoute un petit morceau de musique.
Le petit morceau de musique, ça fait, pour ceux qui nous ont écouté la semaine dernière, c'est celui qu'on a oublié de passer la semaine dernière. C'est un morceau de Kenny Arcana qui s'appelle Victoria. Ça nous permet, comme on n'en parlera pas, comme on n'a pas le temps ce soir, de l'Argentine, qui parlera donc justement de toutes ces luttes sociales qui ont aussi lieu de l'autre côté donc de l'Atlantique, avec les piqueteros et toutes ces occupations d'usines, ces usines récupérées.
Moi c'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
Nos horas, hija mía, son no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar.
Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, il y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort. Et vivre lève de l'exploit.
Nos horas, hija mía, son no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
Il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, il y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits. Après, il y a des gens qui ont peur. Papa dit, ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, sans d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté, parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine.
La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco G. Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.
Vous êtes toujours sur le 102.2 de Radio Canu. C'est un petit peu spécial ce soir. On est en direct de l'autre côté du pont. Donc c'est à Courban Gambetta dans le 7e arrondissement. Donc si vous le souhaitez, que vous habitez pas très loin, vous pouvez venir nous voir. On est là jusqu'à 23h. Pas forcément la bande à Spartacus. On va finir donc d'ici 20-25 minutes. Mais sinon après il y a l'histoire de la radio qui continuera donc jusqu'à 23h ou exactement, je sais plus, minuit. Donc on continue toujours notre heure d'information syndicale sur front de lutte de classe avec les salaires des patrons.
Si on se met à instaurer des tribunaux populaires à tout instant, on s'en sort plus. C'est ce que nous dit Laurence Parisot, un peu larmoyante. Ça fait plaisir à entendre en même temps. C'était après la révélation des dernières affaires de parachutes dorés là, chez Eiffage, Alcatel-Lucent et surtout EADS hein, avec Noël Forgeart. Voilà. Donc pour le patronat, il n'est pas question de légiférer, de faire des lois, etc. Et le MEDEF a pondu quelques recommandations, comme ils disent joliment et poliment. Mais en fait, surtout, ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse faire cette loi du marché. Alors cette loi du marché, qu'est-ce qu'elle nous donne comme parachute dorée par exemple? On a Serge Turuc de Alcatel-Lucent qui nous sort un chiffre de 5 700 000 euros. Il a quitté son poste de PDG en décembre avec cette somme en indemnité. Hein. On aimerait bien nous avoir ces sommes-là quand on quitte nos boulots. Ça s'ajoute à une rémunération de 2,5 millions pour 2006. Son rêve à lui, comme type de société, c'est pas d'usine. Hein. Entre 2000 et 2005, Alcatel a perdu plus de 55 000 emplois. Ils ont fusionné avec Lucent et le groupe est en train encore de supprimer 12 500 nouveaux emplois. Donc pendant son règne, en plus de cela, l'action Alcatel a baissé de 35%. Voilà, donc ce sinistre Serge Turuc, pour le remercier de cette gestion fabuleuse, hein, 35% de baisse de son action, on va arriver dans les 70 000 suppressions d'emplois, eh bien il touche 5 700 000 euros. Christophe de Margerie, c'est pour Total. Il a été mis en examen dans le cadre de l'affaire pétrole contre nourriture en Irak, ainsi que dans le cadre d'une affaire de corruption présumée en Iran. Donc lui, il assure ses arrières hein, face à ses condamnations, ses accusations. Il vient de lever des options d'achat d'actions du groupe. Et ça lui assure une plus-value potentielle de 1,6 million d'euros, de quoi renflouer son patrimoine qui est déjà riche, un capital de 3,8 millions d'euros. Sinon chez Eiffage, alors ça c'est la construction, le bâtiment où on a un mort tous les deux jours dans le bâtiment du côté ouvrier, un accident grave toutes les 3 minutes, lui il est un peu au-dessus de ça avec ses 22 400 000 euros. Le titre s'envole en bourse puisqu'il y a une offensive en ce moment d'un groupe espagnol qui s'appelle Sacyr. Pendant ce temps-là, Jean-François Roverato, PDG d'Eiffage, empoche un paquet d'actions gratuites qui sont valorisées à 22,4 millions d'euros. Et un autre cas exemplaire, c'est quand même ce monsieur Noël Forgeart de EADS. Hein, j'ai appris ce matin qu'ils avaient donné comme participation aux bénéfices aux salariés un truc comme 4 euros pour l'année 2006. Lui, il s'est octroyé 8 500 000 euros. C'est l'ex-patron d'Airbus hein, de 1998 à 2005. Il a été coprésident de la maison mère. Et il est parti donc en juillet dernier avec 8,5 millions d'euros d'indemnité. 4 mois auparavant, ça ne lui suffisait pas. Hein. Il empochait 2,5 millions sur ses stock options. Son salaire annuel était de 2,33 millions d'euros. Enfin voilà, ça fait beaucoup de chiffres qui donnent un peu le tournis. On n'a pas toujours... On se rend pas toujours compte de ce que ça représente hein, quand on, avec les sommes que nous, ceux qui produisons, eh bien, on gagne. Ceux qui nous exploitent, ils en sont dans les dizaines de millions d'euros. On a eu les salaires des patrons les plus riches, hein, le CAC 40, les salaires qui sont tombés dernièrement. On a des augmentations de 21%, par exemple pour BNP Paribas, c'est Baudouin Pro. Il a son salaire qui monte à 3,3 millions d'euros, donc une augmentation de 21%. Pendant ce temps-là, il ne donne rien à ses salariés. les entreprises du CAC 40 ont mené leurs négociations annuelles obligatoires, eh bien, il y a eu un écrasement des salaires, aucune augmentation générale, donc je vous disais, pour les salariés de BNP Paribas. Il faut bien financer l'augmentation de 21% de leur PDG, hein, il faut quand même se serrer la ceinture pour des gens comme ça. Il y a aussi Georges Pauget du Crédit Agricole qui a bénéficié d'une hausse de 54% de sa rémunération. On aimerait bien, nous aussi, voir ce genre d'augmentation de salaire. À la Société Générale, les salariés ont obtenu que 2% d'augmentation. Voilà. Dans l'industrie automobile aussi, les salariés de Renault n'ont eu droit qu'à 1,5% d'augmentation générale. Et pendant ce temps-là, le PDG, Carlos Ghosn, a vu sa rémunération exploser de 45% pour atteindre 2,6 millions d'euros. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi sur les salaires de ces sales patrons, c'est que la part du salaire fixe, en fait, dans les rémunérations des dirigeants de ces très grandes entreprises, a beaucoup diminué, en fait, sur... Par exemple, si on prend le PDG d'AXA, eh bien, il a touché sur 3 700 000 euros, il a touché que 500 000 euros en fixe. Le reste, c'est du variable. Mais enfin, il est quand même assuré de toucher des belles sommes. C'est du variable. En fait, cette part variable a pour but d'aligner la rémunération du dirigeant sur les performances de l'entreprise, qui sont elles-mêmes définies sur la base de critères de gestion qui maximisent la valeur pour l'actionnaire. Dans ce cadre, en fait, les stock options dont on parle souvent représente l'arme ultime. C'est l'un des moyens pour rapprocher les dirigeants des préoccupations des actionnaires en les transformant, donc eux-mêmes, ces patrons, en détenteurs significatifs de parts de l'entreprise. Je finirai sur un dernier chiffre, un rapport d'information de la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui notait en décembre 2003 qu'en moyenne, chaque dirigeant du CAC 40 possédait pour 5 millions d'euros en 2001.
La lutte de classe est internationale. La lutte de classe se passe au Mexique et elle se passe, on le verra aussi, en Espagne. Vous avez certainement entendu parler d'Oaxaca, donc cette fabuleuse aventure qui a été la commune d'Oaxaca, qui a commencé donc au mois de juin l'année dernière et qui s'est achevée dans le sang et sur une répression féroce le 25 novembre, qui a connu au moins une vingtaine de morts et plusieurs personnes emprisonnées. Il faut savoir que le gouverneur, donc Ulises Ruiz Ortiz, dont la démission était réclamée suite justement à la répression dont il avait pu faire preuve sur le mouvement des enseignants, donc continue donc sa répression, et sa répression, elle est très ciblée, parce que cette semaine, donc, il y a David Venegas Reyes qui a été arrêté donc le 13 avril dernier. Il a été arrêté par des policiers en uniforme, mais qui circulait dans une camionnette sans plaque d'immatriculation. Cet étudiant de 24 ans était un animateur du mouvement vocal, donc c'était et qui faisait partie de la Otra Campaña Zapatista. En fait, c'était une des franges, en fait, de cette assemblée populaire qui était justement contre la récupération des partis, contre toute forme de récupération pour un mouvement à la base. Donc cette personne a été arrêtée. Elle a été arrêtée, elle a été torturée, elle a été emmenée dans une prison clandestine, donc d'Ulises Ruiz Ortiz. Grâce à la mobilisation, en fait, étant donné que David Venegas Reyes était à ce moment-là, en fait, avec un avocat, il y a eu une mobilisation qui s'est faite, avec des mobilisations et des manifestations le soir même et surtout le lendemain. On a réussi à le faire sortir et il a été transféré au pénitencier central d'Ixcotel, où enfin il y avait un mandat d'arrêt. Il faut savoir que derrière, comme à chaque fois, il y a des preuves qui sont montées de toutes pièces. Par exemple, on a commencé à vouloir faire croire que David, en fait, était un toxicomane, donc on lui a mis de la poudre blanche. Finalement, comme derrière, les analystes toxicologiques ont montré qu'il ne consommait aucune drogue, finalement on l'a accusé, en fait, de l'incendie du palais de justice lors de la manifestation du 25 novembre dernier. Donc je vous rappelle, c'est le moment où il y a eu la répression. Il faut quand même savoir que cet incendie, malencontreusement, en fait, a fait partir en fumée les dossiers comptables qui devaient permettre, en fait, l'audit financier, donc, de toute l'administration de Ruiz Ortiz. Donc on voit que non seulement c'est quelque chose qui leur a servi, et derrière ils s'en servent encore une fois pour punir un militant qui était très en avant. Mobilisation, manifestation qui réclame donc la libération de David, qui réclame également la libération des 46 personnes qui sont toujours emprisonnées. Donc c'est ce qui se passe au Mexique dans l'état d'Oaxaca. Il va se passer également des choses le 2 mai dans l'état d'Oaxaca, mais également dans tout l'état du Mexique, étant donné que le gouvernement mexicain a adopté, en fait, une loi qui démantèle la sécurité sociale des fonctionnaires. donc et pour la livrer à des fonds de pension. On voit que les pratiques utilisées chez nous sont les pratiques qui sont utilisées partout par les capitalistes. Donc démantèlement de la sécurité sociale, allongement des retraites et ainsi de suite et ainsi de suite, toujours pareil. Donc la mobilisation a été massive le 27 mars dernier, et surtout il y a une nouvelle date qui est mise dans le paysage, et cette date c'est le 2 mai, et cette date elle pourrait être, et on l'espère qu'elle le sera, en fait cette journée de grève nationale, elle sera le point départ éventuel d'une grève illimitée, donc dans chacun des secteurs qui vont se mobiliser. Donc il y a bien entendu l'éducation, il y a également donc la santé, toutes ces personnes là doivent discuter justement dans les semaines qui leur restent, pour la semaine prochaine, doivent discuter si ils sont prêts à partir en grève illimitée pour faire tomber cette nouvelle régression.
On fait un petit tour du côté de Mayotte, toujours donc sur le front des luttes, où depuis 5 semaines déjà, il y a un fort mouvement de grève qui touche les écoles de Mayotte. Et donc ils ont été rejoints le 17 avril par les personnels enseignants du secondaire. Et donc les grévistes revendiquent une revalorisation du statut des personnels, une amélioration des conditions de travail et de rémunération, un droit à la formation, et ils exigent aussi un plan d'urgence pour la construction et la rénovation des écoles, collèges et lycées du territoire, qui sont quand même terriblement vétustes. Donc les autorités locales, elles restent sourdes aux revendications et elles jouent à fond, il faut le dire bien, la carte de la répression policière, avec l'arrestation aussi de plusieurs grévistes. Il faut savoir qu'il y a quand même 5 collègues, dont le secrétaire général du syndicat CGT des enseignants de Mayotte, qui ont été jugés le 18 avril en comparution immédiate. Et ils ont écopé carrément de peine de prison et ferme et avec sursis pour différents motifs, dont celui d'atteinte à la liberté du travail, un thème cher à un certain Nicolas Sarkozy notamment. Et donc pour notre part, on s'élève contre la criminalisation du mouvement social, notamment de lutte complètement légitime. Et on condamne cette dérive actuelle de la gestion policière et aussi judiciaire des mouvements sociaux. Donc on se joint à ces personnels en lutte pour demander la libération de toutes les personnes qui sont emprisonnées, et aussi l'arrêt de toutes les poursuites et aussi la satisfaction des revendications des personnels en lutte de l'enseignement à Mayotte.
Ceux qui nous suivent depuis toutes les semaines, on a entendu parler. Donc c'est Delphi, c'est dans le sud de l'Espagne, c'est à Cadiz. Et en fait, il y a une grève qui a commencé donc depuis le 22 février, plus ou moins suivie selon les jours. Et on va voir, en fait, cette grève, elle est fait suite donc au 22 février, où il y a eu une annonce de délocalisation en Pologne, ce qui va dire que l'entreprise sera totalement fermée. Ça veut dire, je rappelle juste que Delphi, c'est une filiale du constructeur automobile General Motors. Et ça fait donc 1600 emplois en moins. Et comme je le disais tout à l'heure, avec tous les sous-traitants, ça va toucher 4000 personnes. Donc, et derrière, donc il y a eu plusieurs journées de mobilisation, il y a eu un blocage de pont, on en a parlé la semaine dernière, et donc il y avait un appel à la grève générale dans toute la province de Cadiz, dans toute la baie de Cadiz. C'était pour jeudi dernier, on n'avait pas encore les résultats, et les résultats sont plus qu'honorables, étant donné que tous les commerces de proximité, les centres commerciaux, les petites et moyennes entreprises, les administrations publiques, les établissements scolaires ont suivi largement cette grève générale, ce qui veut dire qu'il y a eu toute l'activité économique qui a été bloquée pendant une journée. Il faut savoir quand même que le bassin d'emploi de Cadiz représente 800 000 personnes. Et c'est une première étape derrière un élargissement de cette lutte, étant donné qu'on en parlait donc la semaine dernière. Ils ont une envie, bien entendu, d'élargir cette lutte au niveau de l'Espagne. Et également, on en parlera peut-être ce soir avec Delphi en France, étant donné que ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe un petit peu partout en France, partout aussi dans le monde, dans ces unes-là, étant donné qu'il y a par exemple au Maroc une usine de 442 personnes qui doit également fermer. Donc bien entendu, important d'être internationaliste et d'essayer de conclure et de rassembler toutes nos luttes.
Oui, tu parlais de Delphi. Effectivement, il y a une lutte qui est en train de d'éclore en France, dans les Ardennes plus précisément, à l'usine Delphi de Donchéry, près de Sedan, puisque l'entreprise a bien fait un chantage à ses 460 salariés. Le deal est simple. Soit les salariés acceptent de renoncer à leurs jours de RTT et de geler leur salaire pendant 3 ans, et soit ils ferment le site. Donc voilà encore une menace de fermeture, une grosse restructuration chez Delphi. Il y avait un référendum hier dans l'entreprise, donc on n'a pas les résultats pour l'instant de ce référendum, donc c'est aussi à suivre, espérons qu'ils vont rentrer dans la lutte et s'associer à leurs camarades espagnols.
Donc on va finir avec un dernier sujet sur les sans-papiers. Donc cette lutte du réseau Éducation sans frontières et qui touche plus largement toute la population française. Donc tout d'abord un petit retour sur la mobilisation de la semaine dernière pour Florimond Guimard avec cette manifestation donc à Aix-en-Provence qui a rassemblé plus de 2000 personnes, 2000 à 2500 personnes. Donc en grève et en soutien à Florimond. Florimond, on rappelle juste que c'était un instituteur, c'est un instituteur donc qui a été donc jugé au tribunal et en fait qui est passé au tribunal et en gros son délit c'est un délit de solidarité, c'était s'être opposé donc à l'expulsion d'un sans-papier le 11 novembre dernier. Florimond en fait ce qu'on lui reprochait c'est d'avoir suivi les flics en fait qui emmenaient ce sans-papier à l'aéroport et derrière il risque 3 ans de tôle et 45 000 euros d'amende. Donc le jugement n'a pas eu lieu étant donné que en fait la justice s'est déclarée pas sereine à cause des élections présidentielles. Donc en gros on voit qu'on attend quelle sera la couleur du futur gouvernement et certainement de toute façon on attend que ça retombe pour juger Florimond. Le jugement est reporté au 22 octobre. Derrière le réseau Éducation sans frontières et toutes les personnes ont bien entendu rappelé qu'on sera à nouveau présent le 22 octobre pour que la solidarité ne soit pas un délit. Donc les sans-papiers, ça continue également avec le foyer Aralis, donc Aralis à Gerland, qui a eu cette semaine encore, on en a parlé les semaines dernières, qui a eu en fait la visite de la PAF, c'est la police de l'air et des frontières, qui vient chercher les sans-papiers, qui vient chercher directement en fait les sans-papiers dans leur chambre.
Sur l'agenda.
On enchaîne sur l'agenda et on va parler de, notamment de solidarité avec une camarade de la CNT PTT. Il s'agit d'Angèle. Donc, elle travaillait à la plateforme Colis de Saint-Laurent-de-Mur à côté de chez nous et elle a été licenciée le 16 mai 2006 par la direction de Colis Poste pour faute simple. Alors, pour l'histoire, faute simple, ça n'existe pas. On ne peut pas être licencié pour faute simple. Il s'agit véritablement d'un véritable cas de répression anti-syndicale. Il faut dire qu'elle était déléguée syndicale, cette Angèle. Et donc, il y a un recours devant les prud'hommes qui a été déposé par son avocat. Et la conciliation, elle a eu lieu le 26 juin et elle n'a rien donné. Donc, le jugement prud'homme se déroulera le 30 avril 2007. À 14h30 et ce licenciement donc à la vue des faits qui sont reprochés et pour nous je disais un véritable déni de justice et aussi un acte clair de répression syndicale. Angèle demande au prud'homme la condamnation de la Poste pour licenciement abusif et évidemment sa réintégration. Donc la Confédération nationale du travail vous appelle à venir nombreux le 30 avril à 14h30 devant le tribunal des prud'hommes, c'est au boulevard Eugène de Ruelle à Lyon 3e. Voilà, pour être solidaire avec Angèle pour qu'elle soit rétablie dans son bon droit. Et ben voilà, donc on vous donne rendez-vous ce 30 avril 2007 à 14h30 devant le tribunal des prud'hommes pour soutenir notre camarade Angèle de la CNT-PTT.
Autre rendez-vous important dans l'agenda, c'est les rencontres syndicales internationales qui sont organisées par la CNT à Paris et bien ce week-end jusqu'au 1er mai. Ça commence donc samedi avec des rencontres. Pour l'instant, la CNT semble avoir réussi son pari, c'est-à-dire d'avoir des délégations de toute la planète qui viendront d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et d'Europe. Donc des rencontres qui vont porter soit sur les branches, soit sur des thématiques comme les licenciements ou l'antifascisme ou l'écologie, des rencontres et puis qui se termineront par une grande manif internationale le mardi 1er mai à Paris. Voilà, donc conférences internationales syndicales qui font suite à celle initiée en 99 à San Francisco, organisée par les IWW, et à celle de 2002 à Essen en Allemagne, organisée par la FAO. Donc on s'en fera l'écho dans les prochaines émissions en espérant ramener quelques interviews de syndicalistes de cette planète, des syndicalistes révolutionnaires. Autre rendez-vous
Bien entendu, ce sera le 1er mai, ce sera le 1er mai à Lyon, étant donné que, comme chaque année depuis quelques années, donc il y aura une nouvelle manifestation syndicale et nous, on vous appelle bien entendu à venir à la manifestation Rue Génoire pour la lutte de classe qui partira de la place des Terreaux, donc mardi matin 1er mai à 9h30, qui rejoindra bien entendu la manifestation donc unitaire à 10h30 à Bellecour et ensuite on ira jusqu'à la place Guichard avant que la manifestation Rue Génoire pour la lutte de classe rejoigne donc le repas de quartier de Radio Canu sur la place Satonnet.
Et bien sûr, donc tout ce week-end, c'est les 30 ans de Radio Canu. Vous avez des programmes partout dans la pièce. Laurent en a fait l'énoncé tout à l'heure, donc on va peut-être pas le refaire. Voilà, donc on a fini pour l'agenda.
Et sinon, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Canu, sur le 102.2. Pour ceux qui nous auraient pris en cours, donc on va s'arrêter à 20h30, comme c'est une soirée un petit peu spéciale. C'est Radio Canu la raconte, donc c'est les 30 ans de la radio. On s'arrête ce soir à 20h30. Sinon, nous, on vous retrouve la semaine prochaine de 20h à 21h.
On se quitte avec un morceau qui s'appelle Coup d'état de la jeunesse des Berruriers Noirs. Allez, vive Radio Canu.
Ciao.